L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans la 15e saison de l'écho des gnous. Pierre me fait des grands yeux. Et oui, on a commencé à la rentrée 2010. On était encore étudiant.
Oui, effectivement, donc ça fait 15 ans.
On revient de 2 mois et demi de vacances. Et donc, c'est le 273 numéro de la face A, en attendant qu'un jour, peut-être, la face B reprenne. En tout cas, nous, on a évidemment un petit reliquat d'actualité. Et Pierre, donc, on va prendre une nouvelle de fin juin. Donc, c'est la libération de Julian Assange. Sous condition, bien évidemment.
Oui, mais ce que je trouve aussi intéressant de commencer par ça, c'est que, du coup, c'est l'une des actualités qu'on avait déjà il y a 15 ans. L'emprisonnement. Le non-emprisonnement et le non-procès de Julian Assange à l'époque,
qui était
déjà enfermé dans à l'ambassade d'Équateur, je crois.
Oui, l'ambassade d'Équateur, oui.
Avant de se retrouver enfermé.
Où les policiers britanniques guettaient chaque incursion, chaque pas éventuel hors de la zone extraterritoriale pour pouvoir l'attraper.
Mais donc là, maintenant, ça y est, il est enfin libre. Donc il aura fallu. Je ne sais même plus combien d'années au total il aura fallu. Il a passé 1900 jours dans la prison de haute sécurité de Londres. Il avait passé avant 7 ans dans une ambassade, 5 ans en prison. Donc, ça commence à être long. Ça commence à être très 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 long même. Et tout ça parce qu'à l'époque, il avait donc lancé Wikileaks qui avait révélé différents télégrammes diplomatiques des États-Unis et donc qui avait révélé au monde entier certaines pratiques pas très démocratiques de la part des États-Unis, justement. Donc là, il a reconnu être coupable, mais il n'a pas été jugé par un tribunal secret. Il a été jugé par un tribunal fédéral avec des documents judiciaires qui ont été rendus publics. Et donc là, c'est confirmé, il est libre.
On va partir sur les nouvelles un petit peu plus liées à Internet et donc la vie privée. Alors, vie privée. Donc là, sur un vieux serpent de mer qui est donc la limitation de l'usage des réseaux sociaux aux plus jeunes, en tout cas aux mineurs. Bon, on sait, alors on n'est pas du genre réac ici, mais c'est vrai que utiliser des réseaux sociaux tels que, bon, on va citer les noms, hein, Twitter, j'ai pas envie de dire X, j'ai pas envie de faire plaisir à Monsieur Musk, même s'il s'en fiche complètement, Facebook ou autre, ou l'utilisation de YouTube qui peut parfois aussi s'apparenter un peu à un réseau social, parce qu'il y a des abonnements à des chaînes, il y a des
c'est un réseau social. C'est un réseau social.
Évidemment, il faut accompagner les jeunes, les moins jeunes aussi, parce qu'on se focalise beaucoup sur les jeunes, et au final, quand on voit certaines chères têtes blanches poster je ne sais quoi, ou vous envoyer des mails avec des liens assez douteux, il n'y a pas que la jeunesse, mais il y a effectivement de l'accompagnement à faire, et notamment avec les progrès de l'IA générative. On a déjà parlé, Pierre, hein, donc, et c'est un peu aussi le risque entre ceux qui ont pouvoir avoir une éducation, ceux qui ont pouvoir éduquer leurs enfants à la sélection des sources, et ceux qui seront un peu plus livrés à eux-mêmes. En bref, l'Australie donc doit fixer une limite entre 14 et 16 ans. Bon, je sais pas pourquoi ils hésitent. Bon, la question, c'est que, une limite. D'ailleurs, la plupart des réseaux sociaux imposent déjà dans leurs conditions d'utilisation une limite d'âge. 14, 16, ou alors interdit aux mineurs.
Oui, mais ça, c'est juste pour se protéger, voilà. Eux, en cas de poursuite. C'est en aucun cas quelque chose qui vérifie derrière.
Il y a déjà, en théorie, une limitation. Alors là, l'Australie veut faire une limitation légale, mettre en place une limitation contraignante. La question, c'est comment vont-ils faire ? Alors, il y a une solution technique, alors on en parle régulièrement, c'est la fameuse carte à puce belge qui permet donc, via un lecteur et une API, de savoir uniquement l'âge de l'utilisateur. Bon, ça existe depuis 10-15 ans, ça n'a pas été déployé. Donc, après les solutions, alors en France, on a France Connect éventuellement, mais alors du coup, au niveau vie privée, c'est quand même pas terrible. l'usage, devoir donner une carte bleue, carte bancaire, pardon, enfin numéro de carte bancaire, bon déjà vous n'avez pas envie de donner n'importe qui et vous n'avez pas forcément une carte bancaire. Donc c'est aussi quelque chose de peu, je dirais, réaliste. La question là, c'est comment on va interdire. Alors, on ne parlera pas de ceux qui veulent en plus interdire toute anonymat sur Internet. Bon.
Bah ça découle de ça, malheureusement, parce que quand on parle d'utiliser du France Connect, l'anonymat sur Internet prendrait un gros coup dans le casque à ce moment-là.
Donc à suivre, donc, pour le moment c'est assez succinct, c'est plus de la déclaration d'intention. Donc, la solution technique envisagée, ça, bah, c'est à suivre, et puis on vous tiendra au courant des futures évolutions sur le sujet. On a parlé beaucoup de Google et de les abus de position dominante. Là, il y a une plainte pour abus de position dominante sur un sujet où on a assez peu parlé, c'est Android Auto.
Ouais, le jour où je change de bagnole, ce sujet, il va passer, mais oui.
Toutes les... maintenant, bon, qui peut faire des voitures. Et bon, les applications sont adaptées. Hein, et vous ne retrouvez pas sur Android Auto toutes les applications. Donc, il y a deux types d'applications homologuées. Applications de type messagerie. Vous pouvez répondre, en fait, avec la reconnaissance vocale ou tout ce qui est médias et navigation. Bon, d'ailleurs... alors, j'ai OSM Mode, hein, mais c'est vrai que j'avoue m'en être encore servi. Bon, le fait est qu'une entreprise donc, qui vend une application, qui vend des services pour la recharge des véhicules électriques, bon, on ne s'étendra pas là-dessus, c'est donc plein puisque Android Auto Google refusait que leur application
soit acceptée
dans Android Auto. Et donc, l'affaire est d'abord déroulée auprès d'une juridiction nationale, donc en Italie, et l'autorité de la concurrence locale a donc jugé que c'était effectivement en infraction avec les règles de concurrence européenne. Et donc, ça a été contesté devant le Conseil d'État italien, puis devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, l'avocat général, donc, qui représente le parquet, qui fait sa recommandation, qui fait ses réquisitions, comment dire, en droit français, a donc plaidé dans le sens de l'entreprise italienne, donc du fournisseur d'applications. Donc, il reste à attendre le délibéré.
Mais encore une fois, Android Auto, tout comme l'équivalent chez Apple, c'est CarPlay, c'est des boîtes noires. Et c'est juste, si tu n'as pas de smartphone Apple ou Google, tu n'existes pas, tu n'as pas le droit d'avoir les fonctionnalités.
Alors j'ai appris au détour d'un article sur Tesla, donc on tient la pub à Monsieur Musk, qu'on ne peut pas utiliser Android Auto avec une Tesla.
Non, ils ont dit...
J'ai été abasourdi.
Oui, parce que leur système interne n'est pas Android. Et je crois que ça nécessiterait des composants Android en plus dedans. Après, je ne commenterai pas sur les Tesla. Leur système informatique m'a l'air particulièrement rigolo, donc je ne dirai rien. Mais voilà, ils ont dit non. Ils ont le droit.
Continue les actualités avec Microsoft. Tiens, on a fait Google, on va faire Microsoft. Et donc, Microsoft qui est poursuivi pour remplier de son application Teams, donc son application de visioconférence.
Oui, alors vente liée, je ne sais pas si c'est le ma façon
c'est
de traduire.
C'est le terme que tu as utilisé.
Oui,
Pierre.
C'est le terme que j'ai utilisé. Je ne sais pas si c'était le bon terme, parce que ben en fait, ce qui est reproché à Microsoft, le terme de vente liée, en fait, c'est spécifique au droit de la consommation français. Mais là, ce qui est reproché à Microsoft, c'est de l'abus de position dominante en imposant l'installation de Teams avec Office 365 et Microsoft 365. Parce que ce sont des logiciels qui ont des parts de marché conséquentes, et du coup, ajouter un logiciel intrinsèquement lié à ces logiciels-là, ça fait que ça supprime toute la place qu'il peut y avoir pour des concurrents. Alors, je ne les plaindrai pas, mais notamment des Slack, les Google Meet ou Hangout ou comment ça s'appelle maintenant, je ne sais même plus, ou autres, tous ces logiciels-là, du coup, ont subi une concurrence déloyale de la part de Microsoft, puisque entre ces solutions-là payantes et une solution gratuite, puisque vous payez déjà le reste des logiciels de Microsoft, et juste vous avez celui-là que vous achetez en plus, mais qui est intégré dans le prix du lot, forcément, vous allez prendre la solution qui est gratuite. C'est mieux pour vous. Et donc, c'est ce qui est reproché au niveau de la cour de... C'est au niveau européen. Alors, je sais même plus à quelle cour c'est parti. Parce que, justement, c'est contraire, a priori. Enfin, c'est un abus de position dominante.
Ça doit être la cour de justice de l'Union européenne.
Ouais, ça doit être celle-là. J'ai pas vu le nom. C'est la Commission européenne qui attaque. Et donc, c'est dans un communiqué de presse de la Commission européenne. Voilà.
On a parlé beaucoup dans ces émissions précédentes de violations... de le droit à la propriété intellectuelle par l'IA, et donc par la stupidité artificielle, comme l'appelle Pierre, et Microsoft s'est mis aussi.
Ah non, ils sont allés plus loin. Encore.
Ah, ils sont allés plus loin.
Oui. Oui, parce qu'il y a le fait d'ajouter, en fait, l'intelligence artificielle, donc, en très bref, c'est des systèmes d'apprentissage, donc
c'est
ça a besoin...
pour l'équipe aussi.
Oui. Tu m'embrouilles maintenant. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle ont besoin de récupérer énormément de données pour apprendre. C'est le corpus de départ, l'ensemble des données de départ. Et donc, le gros sujet, il y a des attaques en ce moment aux États-Unis contre Stability AI, Midjourney et DeviantArt par un ensemble d'artistes en disant que les IA ont violé leur propriété intellectuelle puisque en leur posant des questions, on arrive à reproduire du contenu qu'ils ont eux créé.
Ça rappelle la news sur la reproduction d'articles du New York Times qu'on a déjà traité. D'ailleurs, Microsoft se sert allègrement dans les sites qu'il possède, LinkedIn par exemple. Hein, c'est dans les conditions d'utilisation.
Et c'est même pire. Et c'est là justement on arrive sur la partie Microsoft. Microsoft a déclaré non pas que oui, nos IA ont utilisé du contenu, etc. Non. Il considère que l'intégralité de l'Internet, du web, si c'est disponible sur le web, c'est bon, ils ont le droit d'aller piocher dedans. Ils ne reconnaissent pas l'existence d'un copyright sur Internet finalement.
De la part de Microsoft, il s'est quand même battu pour les licences fermées et pour le respect donc, du copyright. C'est quand même assez éreintant.
Voilà. En gros, il considère que le contrat social qui est en place depuis les années 90, c'est que c'est du fair use. Et donc, n'importe qui peut copier, recréer, reproduire le contenu, que ça a toujours été du logiciel gratuit, en quelque sorte. Et donc voilà, c'est le contrat entre les gens qui
le contrat social qu'ils ont contracté eux-mêmes sans te demander ton avis.
C'est ça. Et donc, pour rappel, à côté, lorsque Internet Archive essaye d'archiver des...
On peut faire pareil avec, excuse-moi Pierre, l'usage de licence Microsoft piratée, on peut dire pareil.
Bah oui,
c'est
voilà,
l'usage, monsieur...
Exactement. Et du côté de...
Madela, je crois. Ça tient Madela, c'est toujours lui
ou... Ouais, alors là, c'est pas Madela qui a affirmé cette connerie, c'est leur directeur de l'intelligence artificielle. C'est pas mieux. Et donc, juste pour faire le contraste, hein, Internet Archive, donc, qui vise à archiver un maximum de choses d'Internet avant qu'elles ne changent, ne disparaissent, etc. Parce que l'histoire va se perdre, sinon, aussi simplement que ça. Et donc, Internet Archive, derrière, ils subissent des pressions énormes parce que, par exemple, ils ont archivé 500 000 livres. Et l'éditeur s'y est opposé, alors que l'éditeur ne gagne plus un centime sur ces livres-là. L'éditeur s'y est opposé et a fait retirer le contenu de l'archive. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Si tu es un gros de la Silicon Valley, tu peux affirmer haut et fort que tout Internet est en libre accès pour toi. Mais par contre, si t'es un petit, là, t'as surtout pas intérêt à violer une loi sur le copyright.
Alors, si vous achetez en ligne, il y a de grandes chances que vous ayez été touché par la vague de l'été. Hein, surtout la fin de l'été, c'est une épidémie de violation de données personnelles sur des sites marchands. Donc, il y a eu Boulanger, il y a eu Cultura, il y a eu Truffaut, pas le cinéaste, plutôt les jardiniers.
Il y a eu SFR récemment aussi.
Ah, SFR, tiens, je ne l'avais pas vu passer. Il y avait les transports en commun de l'agglomération de Dijon également. Alors, à chaque fois, des communiqués lapidaires avec en exergue vos données bancaires n'ont pas été compromises.
Encore
par contre, il y a votre. Oui, c'est ça.
Il y en a un où Liban a été compromis. Hein.
Oui.
C'est rien, Liban, c'est le numéro du compte bancaire, ça permet rien, c'est juste bien connu.
Bah, si les banques faisaient leur travail, ça permettrait rien. Mais normalement, il faut un mandat quand même pour.
Oui, sauf que le mandat il est plus validé par les banques depuis le passage à CEPA en 2012.
Ouais.
Voilà.
On a un expert, quelqu'un qui a travaillé personnellement sur le sujet. Enfin, personnellement. Qui a travaillé sur le sujet.
Bah, oui, j'ai travaillé, oui. Ouais. C'est personnel, oui. Non, donc c'est des belles fuites, effectivement. Ouais. Alors à chaque fois, c'est oui, c'est, la carte bancaire n'a pas été prise, mais en fait, c'est mineur par rapport au risque.
Question entre votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Pour commencer un phishing, c'est quand même...
Ah ben, oui, c'est parfait. Surtout que derrière, même si les données bancaires n'ont pas fuité, ils peuvent dire les données bancaires n'ont pas fuité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, par exemple, le 6-4 qui a été fuité, c'est-à-dire les 6 premiers chiffres de la carte bancaire. Et si c'est les six premiers chiffres de la carte bancaire, ça peut donner l'information. Quelle est votre banque ?
Oui, effectivement.
Donc, avec adresse...
Déjà, si c'est une Visa, une Mastercard, votre banque ?
Non, non, mais ça, c'est que le premier chiffre, ça, c'est facile.
Oui.
Là, les six premiers chiffres, c'est le BAN, enfin, c'est le BBAN, c'est le banquier, enfin, numéro d'identification de banque, et ça, ça se trouve en ligne.
Ah, le niveau d'expertise de Pierre sur le sujet, vous ne l'aviez pas vu arriver, celui-là.
Bref, avec aussi peu
de... Esperanto, tu vas finir chroniqueur sur CNews et BFM TV.
Oh, merde. Mais donc, avec les informations qui ont fuité là, il y a moyen de conduire des attaques de phishing monstrueuses. Et mais non, c'est pas grave, on a votre numéro de carte bancaire qu'on n'avait pas le droit de stocker, il n'a pas fuité de toute façon, puisqu'ils n'ont pas le droit de le stocker. C'est la règle, c'est interdit de stocker un numéro de carte bancaire, point. Et de toute façon, ils n'en ont pas besoin.
Et puis là, les règles d'hygiène numérique usuelles, pas forcément. Alors,
ah ben,
si, on peut, alors peut-être l'adresse mail poubelle, mais bon, bon, les mots de passe n'ont pas été compromis, heureusement. Mais enfin là, si vous faites livrer, bon, vous êtes bien obligé de mettre votre adresse. Votre numéro de téléphone pour le suivi de la commande, bon, bah...
Il y en a besoin. L'adresse postale complète pour les commandes, il y en a besoin.
Ouais, ouais.
Souvent, tu as des coordonnées géographiques en plus, avec des latitudes et des longitudes. Enfin,
on ne peut même pas dire « faites attention à vos données ». Ou alors, ne commandez plus en ligne. Mais bon, c'est vrai que dans le monde, c'est quand même assez limitant.
Et là, il n'y a aucune solution pour se protéger de ça. C'est juste que ces gens ont eu un comportement sûrement hyper laxiste encore avec leur infrastructure et donc se sont fait trouer.
Alors souvent, ouais, ça a été des prestataires qui étaient...
Oui,
qui étaient
voilà, parce que en fait, c'est pratique d'attaquer les prestataires, mais en fait, s'ils ne les payaient pas au lance-pierre, s'ils ne prenaient pas toujours au moins 10 ans, peut-être qu'ils auraient des prestataires qui pourraient leur assurer un minimum de sécurité. Mais
on retrouve
habituel, voilà, c'est comme d'hab.
On retrouve des actualités logicielles et sécurité. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Less X More, Crazy Monkey. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusutile.com. Ça vous manquait comme annonce. Hein. If you really want something, don't see the on your way. Always keep a focus on the target, like a team monkey. Come on, come on, dance, can see my balance, like a crazy raging bull.
Like a crazy,
like a monkey,
like a monkey.
Come on, come on, dance, can see my balance. Like a crazy riding bull, like a crazy,
like a crazy,
like a monkey,
like a monkey.
Tango, like a crazy, crazy monkey. Come on, come on, dance, can see my balance. Like a crazy rattle, like a crazy,
like a crazy,
like a monkey,
like a monkey.
Come on, come on, dance, can see my balance. Like a crazy rattle, like a crazy. We'll C'était LexixMore, Crazy Monkey. Vous écoutez les Codéos sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. On continue sur la sécurité, Pierre ?
Oui.
Alors, polyfile détourné, des centaines de milliers d'applications web trouées.
Voilà, c'est toujours les mêmes blagues. Donc, le polyfile. Alors, je commençais par. Qu'est-ce que c'est polyfile ? Personne n'en a entendu parler, je pense, sauf ceux qui, comme moi, s'amusent à activer manuellement, élément par élément, le JavaScript sur les pages web parce qu'ils n'aiment pas lancer n'importe quel programme écrit par n'importe qui sur l'ordinateur. Et donc, moi, c'est comme ça que je voyais régulièrement polyfile passer. Lorsque vous faites une page web, vous utilisez le langage JavaScript. Et il se trouve que ce langage a évolué beaucoup, beaucoup plus vite que les gens ne mettent à jour leur navigateur. Même encore aujourd'hui, il y a des fonctionnalités que vous allez vouloir utiliser qui ne sont pas forcément disponibles partout. Et donc, quand il manque une fonctionnalité, hop, vous avez polyfile, qui est un petit bouche-trou qui permet de rajouter au navigateur, enfin de donner votre code à l'impression que la fonctionnalité est présente et fonctionne, et il y a tout le code pour émuler entre guillemets la fonctionnalité si elle n'est pas implémentée dans le navigateur. Ça s'appelle polyfile. C'était plutôt une bonne idée, ça, c'est en baisse en utilisation parce qu'il y a quand même de plus en plus de navigateurs complets, on va dire, sur le marché, donc il y a moins de besoins.
Mais c'est-à-dire que les devs web sont en avance sur le développement des navigateurs ? Parce que il ne suffit pas que la fonctionnalité soit implémentée dans JavaScript, il faut aussi que les développeurs web l'aient utilisée.
En fait, la fonctionnalité implémentée dans Firefox, implémentée souvent dans Chrome d'abord, ou dans Firefox, ensuite elle devient éventuellement un standard, elle est implémentée en même temps dans les autres navigateurs, et après il y a tout le cycle de mise à jour pour que tout le monde l'ait. Sachant qu'il y a aussi des gens qui sont sur des plateformes bloquées, il y a des smartphones qui ne sont plus mis à jour, il y a des ordinateurs qui ne sont plus mis à jour, qui ne sont juste pas mis à jour parce que les gens ne cliquent pas sur les mises à jour, etc. Il y a plein de raisons pour que justement ce soit bloqué. Et donc, là je regarde, je suis sur le poste de Radio Campus, je n'ai pas la dernière version de Firefox installée. Donc si un site web veut utiliser une fonctionnalité qui est présente que dans la dernière version de Firefox, il y a un trou qu'il faut boucher. Alors, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup polyfile qui était utilisé. Et ce qui s'est passé, c'est que le nom de domaine polyfile.io a été racheté par une société chinoise et son usage a été détourné allant de contenu pornographique à la diffusion de malware.
Ouais. Il suffit du rachat d'un autre domaine, c'est quand même...
Voilà. En fait, les développeurs... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de développeurs aujourd'hui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils se créent des dépendances à des tas d'éléments externes et ils ne se disent pas « Oui, mais et si ? Qu'est-ce qui peut se passer si le composant externe disparaît ? Si le composant externe est repris par quelqu'un de malveillant ?»
On demande aux développeurs web de faire des trucs rapidement et fonctionnels.
Et voilà. Et voilà. On en reparlera un peu tout à l'heure de tout ça. Mais en tout cas, c'est un bel exemple encore. Les sites ne sont pas responsables de cette faille. C'est un tiers qui a eu une faille. Enfin, qui a eu une faille, qui n'a pas eu une faille. C'est un tiers qui a changé de main. Et pour tous les sites, toutes les applications que des gens ont pu lancer il y a X temps et qu'ils ne maintiennent pas parce que juste, ça fonctionne. Je ne vais pas toucher à quelque chose qui fonctionne.
C'est quand même une règle assez usitée en informatique.
Oui, mais non pas assez utilisé, je trouve. Mais ça, c'est un autre débat encore. Mais voilà, il y a un vrai problème. C'est le vieux problème de la chaîne d'approvisionnement des logiciels. Et nouvelle illustration.
On finit la sécurité avec CrowdStrike, la grande bourde de sécurité de l'été. Donc on avait les fuites de données de l'été. Maintenant, on a la bourde de sécurité de l'été.
Ah, celle-là, elle était magnifique. Alors, ça a touché... j'avais le chiffre, j'avais noté quelque part, a priori au moins 8,5 millions d'ordinateurs sous Windows qui ont été impactés. Mais attention, on ne parle pas d'un impact mineur, genre la machine elle rame ou la machine elle affiche des pop-up ou des trucs comme ça. Non, c'est une machine qui ne démarre plus. C'est un peu plus gênant. Avec intervention manuelle requise sur chaque machine, parce que la machine ne se connecte plus au réseau, elle ne démarre pas. Gros problème. Donc, je vais juste expliquer un petit peu. Alors, CrowdStrike, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de sécurité additionnel pour Windows, édité par l'éditeur CrowdStrike. Et ils ont fait une mise à jour cet été. Et une fois que la mise à jour a été diffusée, des millions d'ordinateurs ont commencé à avoir des écrans bleus au démarrage. parce que ce qui se passe. Et là, on tombe sur pas mal de trucs assez rigolos. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment en parler dans cette émission. Ce qui se passe, c'est que pour fonctionner, CrowdStrike est obligé de se brancher à un très bas niveau au niveau de Windows. Parce que Microsoft n'a pas fourni de solution autre que celle-là pour le fonctionnement des solutions de sécurité. Ils ont décrété que non, vous n'y avez pas accès. C'est là-dessus, il y a des gros problèmes de concurrence justement entre Microsoft qui voulait limiter tous les éditeurs, sauf eux, à des accès protégés, on va dire, et eux, ils avaient l'accès open bar. Ça n'a pas été approuvé justement, là, c'est notamment au niveau européen, on a dit à Microsoft, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Tout le monde doit avoir les mêmes accès. Donc Microsoft a dit, tant pis, on laisse l'accès open bar à tout le monde. Au lieu de dire, on met toutes les fonctionnalités nécessaires dans les accès protégés. Et c'est dommage. Et donc CrowdStrike, là, il y a une mise à jour qui a été diffusée. Alors depuis, on a appris que le processus de test chez CrowdStrike était plus ou moins nul. Ils ont fait une mise à jour, ils l'ont diffusée, et puis leur système de protection fonctionnant par au niveau d'un pilote dans le noyau Windows, au démarrage, ça charge le fichier d'analyse incorrect, ça le lance et ça plante et écran bleu. Fin de l'histoire. Ça a fait annuler des milliers de vols, ça a paralysé des entreprises, ça a paralysé des hôpitaux, ça a paralysé des aéroports, ça a été une catastrophe mondiale. 8,5 millions d'ordinateurs dans le monde et uniquement des ordinateurs d'entreprise.
Oui, alors c'est pas 8,5 millions de postes bureautiques.
Voilà.
En général, c'était quand même des postes à usage relativement critique.
Ah non, ça peut être aussi des postes bureautiques dans les entreprises, mais c'est deux postes d'entreprise dans tous les cas. Et donc 8,5 millions d'ordinateurs d'entreprise et des entreprises assez paranoïaques pour utiliser ce genre d'outils, ça fait du beau monde.
Alors est-ce qu'en manière de sécurité, la paranoïa est pas un peu aussi une qualité?
Là, ce niveau-là de paranoïa, a priori, moi, quand je vois ce genre d'outil, je considère que c'est une backdoor, l'outil. Hein, mais c'est un autre débat, ça, malheureusement.
On passe aux actualités logicielles?
Oui.
Donc, les pièges du propriétaire se refermaient sur les utilisateurs de VMware. Je ne sais pas si on a beaucoup...
On a parlé du rachat lui-même. On avait dit que ça commençait à grogner.
Et là, ça commençait à râler. Et là, maintenant, c'est des entreprises, des petites PME, AT&T, Orange ou Thales, qui commencent à râler sur les pratiques commerciales. Alors, c'est des grands comptes, hein, donc qui avaient des contrats et qu'ils ont râlé sur le fait que Broadcom, notamment, voulait changer les règles du jeu. Bon... AT&T notamment était un peu victime de chantage à la vente forcée, puisque pour pouvoir continuer à utiliser les solutions, Broadcom voulait leur faire acheter un package avec plein d'options dont ils n'ont pas besoin. Bon, après, c'est AT&T, donc c'est pas non plus les petits. C'est des gens qui ont une certaine force de négociation et également, je suppose, des bons avocats.
C'est quand même du chantage. Hein,
ouais.
On faut payer une rançon.
Donc Thales a saisi en référé le tribunal de commerce de Paris, donc a gagné en référé maintenant, a priori, mais il faut aussi maintenant attendre le jugement au fond. Et donc Orange s'y met aussi. Donc des grands noms.
Comme quoi, donc quand faire confiance à un éditeur de logiciel propriétaire, parce que oui, il y a l'éditeur derrière, tout va bien. Mmh. Ils peuvent se faire racheter. Mince, zut, c'était pas prévu.
Et par une entreprise qui donc a dû...
Et une entreprise qui a juste
qui,
envie
qui,
de...
Qui a acheté cher...
et qui a envie de traire la vache.
C'est ça.
Hop là. C'est bien le capitalisme.
Un bel abus de position dominante. C'est que celui-là, on n'a pas spécialement entendu parler le deux termes abus de position dominante pour le coup.
Non, effectivement, alors que... il y en a d'autres, des solutions techniques. Et là, oui. c'est comme si on... Enfin, on parle plus trop des abus de position dominante sur Windows, mais c'est parce que... Faut bien comprendre. L'abus de position dominante... C'est pas parce que tu es en situation de quasi-monopole que tu es en train d'abuser de ta position. Si VMware derrière avait commencé à dire « Ah oui, mais là, vous utilisez notre solution technique, notre hyperviseur, ok, mais dans ce cas, vous utilisez aussi ce système d'exploitation qu'on vous vend, nous, derrière. » Là, ça serait de l'abus. Là, ils utiliseraient leur position sur un marché pour prendre un autre marché. Le fait d'être majoritaire sur son marché, c'est pas quelque chose qui est reproché aux entreprises. À chaque fois, on dit vous arrêtez de dire abus de position de dominante ou de monopole contre les Google, Apple, Microsoft et autres. En fait, là où leur comportement est anormal, c'est que on en a parlé juste avant avec Microsoft. Microsoft exploite sa position sur Office pour écraser le marché de la messagerie en imposant Teams. Ça, c'est de l'abus de position dominante. Tu es sur un marché, tu étends le marché en englobant un deuxième où tu n'avais pas pied, et tu profites de ton premier marché pour écraser tout le monde d'une manière que personne ne puisse lutter. C'est ça,
c'est aussi une conséquence maintenant dans l'informatique actuelle de devoir souvent acheter des services et pas uniquement le produit.
Évidemment.
Bon, il y a 20 ans, 25 ans, vous achetiez votre licence Microsoft Windows. Bon, bah, vous étiez tranquille, vous ne veillez plus rien à Microsoft. Maintenant, pour que votre produit continue à fonctionner, il faut repasser à
l'abonnement.
Par abonnement. Alors, ce n'est pas les seuls, hein, dans tous les secteurs, on essaie de vous vendre des abonnements, même des abonnements à des fringues, ce genre de choses.
À des imprimantes.
À
des souris.
À des souris. Hein, bon, on essaie de vous vendre des abonnements à tout n'importe quoi. C'est un petit peu l'Eldorado. Alors, c'est un peu tassé, j'entends moins parler, mais voilà, c'est aussi. Et ça n'épargne personne, et même, je dirais, des grosses entreprises, peut-être même de la taille de Broadcom. On va parler logiciel libre, tiens, maintenant.
Ça va
Plasma
faire du bien.
6.1, donc, alors si j'ai le bureau de KDE, le moteur de bureau
de KDE, l'environnement de bureau KDE,
donc 6.1 est sorti. Pierre, on sait à quel point le projet KDE te tient à cœur, je vais te laisser en parler.
Oui, c'est la routine. Alors la 6.0, c'était vraiment la première version qui était sortie il y a quelques mois de ça. Elle est sortie au début de l'année, de mémoire. Et donc la 6.1, c'est tout un ensemble de corrections. C'est ce qu'on avait pu observer comme problème sur la 6.0 qui ont été corrigés. Les accès distants, il y a du travail au niveau de la persistance. Donc se souvenir de quelles applications sont lancées sur la session quand vous éteignez votre machine et vous la rallumez. Un peu de tout, de l'amélioration de performance. Alors, il y a une fonctionnalité que j'ai découvert à cause de Metic qui m'a fait beaucoup rire, qui est très pratique finalement sur les grands écrans, c'est que tu peux secouer la souris et puis pouf, le curseur agrandit pour que tu puisses savoir où il est plus facilement. Quand tu as tes grands écrans, c'est très pratique.
KDE,
c'est très très pratique. Non, c'est une nouvelle version avec pas mal d'améliorations à droite à gauche, des corrections aussi pour les gens qui possèdent malheureusement des cartes Nvidia.
Au boulot, je suis passé mon poste bureautique et passé récemment à Windows 11.
Oh,
eh ben, je trouve que ça a quand même une belle tête de KDE quand même, le menu.
Ils ont bien repris les idées qui avaient déjà été implémentées avant sur KDE.
Non mais c'est une bonne tête. Ah, non mais je vois bien l'inspiration KDE. Ça me fait penser à KDE d'il y a 10 ans quoi.
Ouais,
côté KDE 4.
Hein. Oui, ils ont repris. Ouais. C'est bizarre. Hein.
C'était en imité Windows et maintenant.
Maintenant on a l'impression que c'est le sens inverse.
Ouais,
complètement. Donc,
quand on parlait de Linux sur le desktop, on n'avait pas tort.
On continue sur les nouvelles.
Alors, de polémique à Abandonware, le projet Mono. Ça faisait hurler il y a 20 ans. Avec Gnome, c'est dégueulasse. Vous vous compromettez. Vous allez être dépendant à la version libre de C-Sharp qui est à la merci du brevet Microsoft.
Oui, et ça a tellement gueulé à l'époque que finalement, Gnome n'a jamais dépendu de Mono, sauf pour le système de recherche de l'époque qui s'appelait Beagle, je crois. Oh non, pas Beagle. Non, je sais plus le nom.
Mais plus.
C'était il y a vraiment longtemps.
Personne
ne
s'en souvient.
Ouais, merde.
Il y a 18 ans, c'était au FOSDEM 2006.
Bref, donc Mono, qu'est-ce que c'est? Plutôt, qu'est-ce que c'était? C'était une implémentation libre de .NET. .NET, qu'est-ce que c'est? C'est à partir de la fin des années 90, Microsoft qui a décidé de concurrencer Java en lançant .NET pour écrire d'une façon plus moderne et moins compliquée et plus stable des applications Windows. Donc Mono est une réimplémentation libre de .NET pour écrire des applications Windows, mais pas que, aussi des applications graphiques pour Linux, pour macOS. Ça a été étendu après avec Android, iPhone, macOS, etc. Mais il y a quelques années, je ne me souviens plus de la date, il y a 5-10 ans, Mono a été racheté en fait par Microsoft. Microsoft a pris le contrôle de Mono en 2016 en rachetant la société Xamarin. Et depuis, Mono était plus ou moins au point mort, parce que Microsoft a lancé son propre projet de plateforme .NET libre et multiplateforme. Mono avait encore une utilisation. Mono a encore une utilisation aujourd'hui, c'est pouvoir lancer certaines applications Windows dans Wine, le non-émulateur Windows sous Linux.
Et
D'où le don de Microsoft. Microsoft a décidé de... Bon, on n'arrive pas à faire grand-chose de Mono, ça ne nous intéresse pas. Tenez, Wine, c'est pour vous. Cadeau. Il y a 20 ans, il ne l'aurait pas fait. Il y a beau geste. Donc, ça fait que, désormais, c'est la même entité qui développera l'intégralité de la compatibilité avec les applications Windows. Ça peut être que bénéfique pour certaines fonctionnalités.
Merci Pierre, on continue avec les logiciels libres cette fois-ci, avec Roman Koch, Moonlight. Vous écoutez le Codex News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com. Roman Koch, Moonlight. Vous écoutez l'Écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique RST campus.com. On continue avec les actualités logicielles libres et un projet qui est aussi cher au cœur de Pierre, mais beaucoup moins usité. C'est de l'art, c'est de la recherche et développement.
Non, c'est
C'est Haiku.
Haiku, le système d'exploitation libre clone de BOS. Alors, qui connaît effectivement pas grand monde hein,
que moi, je suivais déjà à 10 ans, 12 ans, je suivais des émissions informatiques. C'était sur Cybercafé 21. Je ne sais pas si tu as connu cette émission sur RTBF. Fin des années 90, début des années 2000.
Et donc, à l'époque, il parlait de BOS, peut-être. Ouais. Oui, alors BOS, c'était un système qui se voulait qui était révolutionnaire pour l'époque et qui, même aujourd'hui, à des ambitions qui sont assez révolutionnaires. C'était un système d'exploitation orienté multimédia et moderne. Parce que, clairement, les systèmes d'exploitation utilisés aujourd'hui, que ce soit macOS, Linux, Windows, tous ont leurs racines dans les années 70 à 80. Et donc, ont des éléments qui sont inspirés du matériel de cette époque-là aussi, certains choix qui sont inspirés de ça. Notamment, la cible de BOS, c'était tout ce qui était multimédia, donc leurs vidéos à l'époque, leurs démonstrations, c'était on lançait plein de vidéos en même temps en parallèle sur l'écran et ça ne sautait pas une image. C'était parfaitement fluide. L'entreprise a malheureusement capoté, notamment l'entreprise a tenté de vendre matériel et logiciel, ça s'est pas bien passé, a tenté de vendre logiciel seul, ça s'est mal passé parce que Microsoft a utilisé sa position dominante pour interdire aux fabricants d'ordinateurs de préinstaller BOS. Ils ont tenté, leur dernière chance, ça a été tenté de se vendre à Apple pour créer macOS, pour que macOS 10 soit BOS. Ça a échoué parce que Steve Jobs est revenu chez Apple à ce moment-là et a imposé Next Step, la solution qui avait été développée dans son entreprise qu'il avait faite quand il avait quitté Apple. Donc l'histoire de BOS,
ça s'est bien passé pour Apple après.
On
peut pas non plus reprocher une décision stratégique.
Quel aurait été l'avenir avec BOS, on peut pas deviner par contre. C'est juste ça. Et donc, BI a terminé à ce moment-là. Et donc, Haiku est une réimplémentation libre de BOS. Et c'est un système d'exploitation de bureau qui est vraiment assez... qui est même très impressionnant. Quand on le lance, déjà, c'est le temps de démarrage, la fluidité, la réactivité. On est bien au-delà de ce qu'on a sur les systèmes habituels, que ce soit Windows, Linux ou macOS. On est sur un système qui est hyper fluide, alors qu'il est extrêmement complet. Et donc là, la nouvelle version, c'est port de tout un ensemble de nouvelles applications, des améliorations sur l'ensemble du système.
Là, j'ai posé une question, Pierre, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ?
Ben, moi, je compte le mettre en dual boot sur mon PC portable, ouais.
Et pour le sport, où tu vas...
Hein ?
Est-ce que moi, il y a LibreOffice de porter
dessus ? Oui, il y a LibreOffice. Il y a toutes les applications KDE qui ont été portées aussi. Il y a GIMP, Blender... Blender, je ne sais plus, tiens. Enfin, la plupart des applications libres sont disponibles. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Oui, Firefox, c'est en cours. Firefox, c'est un poil plus compliqué. Ils utilisent plutôt des navigateurs basés sur Chromium, parce que Chromium a été porté plus facilement. Geeko, c'est un poil plus complexe, mais c'est en cours pour Firefox. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Si aujourd'hui vous avez besoin que d'un navigateur web et d'une suite bureautique, vous pouvez utiliser Haiku.
C'est quand même l'utilisation d'un ordinateur quand même pour beaucoup de gens maintenant.
Oui, donc tout ça fonctionne.
FreeDOS a 30 ans.
Oui, c'est un petit anniversaire pour FreeDOS. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, je crois, de FreeDOS. Donc FreeDOS, c'est un système libre, clone de Microsoft DOS, pour ceux qui se souviennent des années 70 et 80.
Et des fois, il est livré dans certaines machines sans système d'exploitation. Bon, il y en a au moins un, c'est celui-là.
Voilà.
C'est une machine sans Windows. Soit vous avez Ubuntu, souvent, soit c'est FreeDOS.
Voilà, donc FreeDOS, la version 1.0 est sortie en 2006. La version... Alors, il continue d'être maintenu, il continue d'ajouter quelques fonctionnalités, mais voilà, c'est surtout utilisé pour les gens qui souhaitent lancer des vieilles applications.
On continue sur ce logiciel, Caligra 4.0.
Oui, et dans la foulée aussi, on pourra parler de l'autre suite bureautique libre dont on parle beaucoup plus. Caligra 4.0, donc Caligra, c'est la suite bureautique du projet KDE. Donc, la version 4 est sortie.
Je suis surpris que ça commence par un C, pas un K.
Parce que c'était la mode lorsqu'on a choisi le nom en 2010, on était en train de faire la bascule à l'époque des noms en K. Justement, c'était en train de disparaître, c'est pour ça qu'il y a eu Plasma, Gwenview, Dolphin. c'était cette mode-là. Et donc, Caligra a pris, on a choisi la lettre C parce que c'était beaucoup plus proche de, aussi, c'était
aucune
proche
question,
du nom
piège pour Pierre. Hein.
Ben, surtout que là, pour le coup, j'étais dans le projet à l'époque, j'ai participé au vote. Donc, je m'en souviens peut-être pas. Et donc, c'est une suite bureautique libre. Donc, il y a tout ce qui compose une suite bureautique, traitement de texte, tableur, etc. La particularité, ben, par rapport à notamment LibreOffice, c'est que c'est une suite bureautique beaucoup, qui se veut beaucoup plus légère, qui est réussie à l'être sur pas mal de choses, et qui a une interface beaucoup moins lourde et écrasante, on va dire, que l'interface d'un LibreOffice.
Donc LibreOffice,
et
version 24.8.
C'est ça, donc pour rappel, ils ont changé de numéro, hein. Maintenant c'est année.mois. Et donc, la version d'août 2024, gros changement un peu partout, amélioration de performance, de support de certains formats de documents de Microsoft, ce genre de choses. Et voilà, ils se mettent en avant surtout comme étant vraiment une suite bureautique respectueuse de la vie privée. Ils ont commencé à mettre en place des options de vie privée au niveau de l'édition pour automatiquement supprimer toutes les informations de personnel lors de la sauvegarde et de l'export des documents. Par exemple, assez souvent, l'éditeur de documents va laisser la date, l'heure, le nom, la durée d'édition, le nom de l'imprimante, la configuration de l'imprimante, les modèles, etc. Tout ça peut être supprimé automatiquement maintenant parce qu'ils considèrent que c'est important pour le respect de la vie privée.
On peut rajouter une petite nouvelle diverse et variée. On peut parler de la stupidité artificielle. La nouvelle victime, c'est les chômeurs du Nevada, où en cas donc d'appel à une demande d'allocation chômage refusée, ce sera l'IA qui fera un pré-traitement. Bon, avec les biais qu'on connaît de l'IA. On peut parler de l'inquiétude sur le financement du logiciel libre en Europe également.
Oui, avec... C'est au niveau de la. C'est le programme Next Generation Internet qui finance jusqu'à maintenant, qui finançait beaucoup d'acteurs du logiciel libre. Et dans le programme de cette année d'Horizon Europe, donc le programme de la Commission européenne, Next Generation Internet n'est plus financé. Enfin, n'est plus mentionné, donc il y a une grosse inquiétude, et c'est notamment Framasoft ou des associations comme les Petites Singularités en Belgique qui dépendent énormément de ça, donc il y a une énorme inquiétude sur qu'est-ce que ça va devenir, et ça pourrait faire un grand mal à l'écosystème du logiciel libre en Europe.
On écoute une dégeekalisation, la première de la saison, après un troisième morceau de musique. Nous allons donc écouter Soon Status, Admire. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Yeah.
C'était Soon Stay Tues, Admire. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus, sur 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation, et pas n'importe laquelle, la première de la saison. Pierre jette un petit coup d'œil dans le rétro. Ça a parlé Windows NT 4 et de.
Non, pas que. Non, pas que.
Power PC.
Voilà. Pas que. Pas que.
On est sur une dégeekalisation archéologique.
C'est ça. Donc, j'ai juste commencé par une petite citation pour une fois. Ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé sont condamnés à le revivre. Donc, la citation est de Santayana.
Et elle est connue.
Elle est connue. Elle est connue. Elle a été prêtée à beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, elle va être assez intéressante à avoir en tête pour cette petite dégeekalisation. Il se trouve que ces derniers mois, j'ai remarqué pas mal d'actualités autour de du rétro-computing, on appelle en anglais, donc de l'informatique rétro. Et il y a eu effectivement pas mal de choses. Il y a des gens qui ont retrouvé des pépites ou des gens qui ont créé des monstres en prenant les technologies de l'ancien temps. Par exemple, là, cette semaine, quelqu'un s'est amusé à démarrer un Linux sur un Intel 4004. Alors, ceux qui ne connaissent pas par cœur l'histoire des processeurs...
Oui. Qui est le prédécesseur du 8008.
Le 4004 est le premier processeur. Voilà. C'est le premier.
C'est l'ancêtre.
C'est l'ancêtre. C'est le tout premier. Alors, le système a mis une semaine, je crois, à démarrer, mais ça a marché.
Et qu'il y a un noyau réduit au minimum.
Oui, et en fait, oui, passe sur les détails techniques de comment ils l'ont fait marcher.
Il y avait une possibilité d'interaction ou c'est juste, il y a un programme qui tournait.
Oui, il y avait un script, il y avait une connexion série, ils pouvaient taper des commandes. Hein.
D'accord.
C'est juste que quand tu tapes une commande, quand tu tapes pour lister les fichiers dans le dossier et que tu fais entrer, t'attends 3, 4, 5, 8, 12 heures à peu près. Mais voilà, ça, c'était un système fonctionnel et... En fait, il y a tout le monde de l'informatique rétro, c'est retrouver des machines vraiment spécifiques et rares qui ont marqué leur temps, qui auraient pu devenir des grandes choses s'il n'y avait pas eu des mésaventures, des choix stratégiques, des choix commerciaux, des choix capitalistiques pour certains.
Comme BIOS par exemple.
Exactement, d'où le lien avec mes actualités. Bravo, tu as trouvé.
Il y a une ligne éditoriale dans cette émission quand
c'est
même.
C'est ça, pour une fois. Et donc, tout ça, c'est le monde de la rétro, de l'informatique rétro, et donc je voudrais en parler un petit peu, parce qu'il y a quand même des tas de choses très rigolotes. Donc, tout le monde voit l'informatique comme étant une lignée assez linéaire. On a eu les premiers PC avec donc Microsoft DOS, Windows, qui a évolué, il y a eu la branche des Windows 95, 98 Millennium, il y a eu la branche avec Windows 2000, XP et autres... Et de ça a donné les Windows d'aujourd'hui. Et à côté, il y a eu Apple qui a vécu bon an, mal an, et puis qui a fini par sortir Mac OS X au début des années 2000, et ça a donné la solution de maintenant. C'est une belle vision de l'histoire, mais c'est une vision qui oublie complètement tout ce qui a créé ce cadre, tout ce qui a créé finalement c'est les choix, tout ce qui a influencé la conception de toutes nos machines aujourd'hui. Et ce qui fait qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes, qu'on peut faire, et d'autres qu'on ne peut pas faire. Et donc, il y a tout un monde qui s'amuse à faire revivre tout ce qu'on envisageait à l'époque et qui a été abandonné. Par exemple, Microsoft a sorti des versions de Windows, excusez-moi, des versions de Windows pour des machines avec des processeurs autres qu'Intel. Parce qu'à l'époque, tout le monde, absolument tout le monde, pensait que les PC étaient condamnés à mourir avant la fin des années 90. Et donc, des fous se sont amusés à faire fonctionner Windows NT 4 sur PowerPC, sur les Apple Mac de l'époque, des années 90.
Un logiciel non libre, c'est quand même...
Oui, mais en fait, Microsoft avait fait une version PowerPC de Windows NT, mais ne l'avait pas adapté au Power Mac, parce qu'il n'y avait pas les pilotes, il n'y avait pas le support du matériel, etc. Et donc, des fanatiques se sont amusés à faire tout le travail nécessaire pour que Windows NT 4 fonctionne sur des Power Mac. C'est des visions, quand on connaît l'histoire de l'informatique, voir ces expériences-là fonctionner, c'est extrêmement perturbant. C'est des pans de l'histoire qu'on occulte complètement. On n'est pas au courant de cette période où les choix qu'on... Pour peu de choses, il y a des choix qui ont été faits pour peu de choses, on aurait abouti à un présent qui aurait été radicalement différent techniquement. Parce que les processeurs Intel, à l'époque, étaient clairement à la traîne sur les nouvelles fonctionnalités par rapport à d'autres. Par rapport aux Alpha, aux Spark, aux Power et autres. Il y a plein de technologies qui ont existé. Il y a eu vraiment une période de choix, un âge d'or. Et ben, on a tout le monde, finalement, est arrivé sur une seule solution. Et ce n'est pas forcément la mieux disante, c'est juste, c'est celle-là qui a été prise. Et dans le monde de l'informatique rétro, on a aussi beaucoup de gens qui s'amusent à apprendre des nouvelles astuces à des vieux systèmes. Par exemple, il y a un YouTuber qui s'est amusé à porter des milliers d'applications Windows modernes sur Windows 95. Ce qui est assez perturbant.
Moi, le défi, c'est Windows 3.1.
Non, là, faut peut-être
le
pas
95, ça reste quand même...
Non.
D'un point de vue utilisateur, oui.
Il a porté .NET quand même sur Windows 95.
C'est pas mal.
Voilà. Ce qui fait qu'il a pu lancer énormément d'applications. Et .NET, la version fermée, hein, pas la version libre. C'était très, très, très sportif, ça fait des vidéos très intéressantes pour les geeks. Et un autre pan de toute l'informatique rétro, c'est sur quoi je voudrais fermer, c'est des gens qui s'amusent à sauver du vieux matériel et à voir ce qu'on peut encore en faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Mac ultra moderne de 2004? Et c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire, ou tout ce qu'on peut faire avec un vieux PC. Et en prenant des systèmes comme Haiku, qui sont des systèmes qui ont été conçus pour être vraiment légers et donner le maximum de puissance finalement aux applications, on a des systèmes qui pourraient être extrêmement fonctionnels aujourd'hui. Il y a juste un problème. Et là-dessus, je voudrais finir sur ça. Alexandre, est-ce que Gmail... que si tu dis l'interface web de Gmail, est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que l'interface web de Gmail t'apporte beaucoup plus de choses qu'elle ne t'en apportait en 2007?
J'ai pas l'impression.
Et pourtant, elle a besoin de 5, 10, 20 fois, 100 fois plus de ressources pour fonctionner. C'est un vieux débat, mais c'est...
On en parle souvent d'ailleurs.
Mais c'est le problème. On a ça pour tout.
C'est pareil avec... le navigateur internet. Alors, le navigateur internet, il y a aussi les scripts Java JavaScript sont pas les mêmes. C'est pareil avec les sites bureautiques. C'est comme l'exemple 2, ça fait à peu près la même chose depuis.
C'est pas le même ordre de grandeur. C'est pas du tout le même ordre de grandeur.
En termes de puissance utilisée.
Ah oui, oui. Un LibreOffice aujourd'hui peut tourner sur une machine d'il y a 20 ans sans problème.
Oui.
Ah, quand même. Ah oui, moi je te mets au défi.
Il y a 20 ans, ouais.
Je le fais, donc il n'y a pas de problème, okay. En fait. Donc ça, c'est pas un souci. Mais par contre, les applications web, c'est devenu n'importe quoi. Et là, on tombe sur, finalement, un problème lié au capitalisme. Ça coûte moins cher de faire en vitesse, et tant pis pour les performances, et tant pis pour les autres. Vous n'avez qu'à mettre à jour tout votre matériel. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui doivent abandonner leur téléphone portable au bout de 3 ans. C'est pour ça qu'on se retrouve avec Dell qui s'enjaille, parce que nous arrivons enfin sur une bonne période, puisque il y a eu un gros cycle au début du Covid d'achat d'ordinateurs portables, et ça fait 5 ans. Au bout de 5 ans, les gens renouvellent le matériel parce que, vous comprenez, les machines ne sont plus assez puissantes, à cause des nouvelles pages web qui consomment trop de ressources.
Merci Pierre, un petit point rapide sur l'agenda. Ce mardi, donc de 19h à 22h, la permanence associative de l'association Stinux au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille. Des install parties, il y en a, vous pouvez regarder l'agenda du Libre, un mercredi à 6-1, samedi, forum des associations Grand Sud à Lille, install party à Roubaix samedi matin, et également à Croix, mardi 1er octobre, de 19h à 22h. C'était le 173e numéro de l'Éconégnou, on se retrouve dans deux semaine pour le numéro 274 à 19h comme d'habitude. Dans une semaine, vous avez rendez-vous avec la deuxième ligne, du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et comme d'habitude, juste après nous, c'est Chu Papimento à qui on passe l'antenne. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette émission de rentrée et à bientôt. Bonne fin de week-end.
Bye bye.